Vidocq, Mémoire, chapitre 73. Les emprunteurs. L'emprunt, qui participe de l'escroquerie et du vol, est un des moyens les plus ingénieux de s'approprier le bien d'autrui. Jamais les emprunteurs ne firent de plus brillantes affaires que durant les troubles de notre Révolution. C'était le beau temps de leur industrie qu'ils exerçaient de la manière suivante. Deux hommes d'un âge mûr voyageaient en poste, emmenant avec eux un troisième individu qui était censé être leur domestique. Ces messieurs avaient tous les dehors de l'opulence, une mise recherchée, des manières élégantes, un langage approprié et la politesse des gens de cour. Impossible de ne pas les prendre pour des personnages, et qui plus est, à en juger par les dépenses qu'ils faisaient, et jamais ils ne descendaient que dans les meilleures auberges ou dans les hôtels les mieux famés. Ce qui leur importait surtout, c'est que l'hôtelier fut un de ces matadors du pays. Aussi savait-il toujours à l'avance la situation de sa caisse, et s'il n'avait pas beaucoup d'argent, il fallait du moins qu'ils puissent fonder leur espoir sur son crédit. Et sous ce rapport, les maîtres de poste leur convenaient à merveille. Arrivés au gîte qu'ils avaient choisi, les deux voyageurs se faisaient donner la plus belle chambre, et tandis que la maison retentissait d'ordres lancés du haut de leur grandeur, le prétendu domestique s'occupait de faire remiser la voiture et de décharger les effets de ses maîtres. Rarement, cette opération ne s'effectue pas en présence du personnel de l'hôtellerie. Le bourgeois, la bourgeoise, les servantes, les garçons d'écurie, le cuisinier et jusqu'au marmiton, chacun est bien aise en pareille occasion de donner son coup d'œil. Chacun son petit brin de curiosité. Ces témoins obligés de tout débarquement ne laissent pas échapper le moindre des circonstances favorables ou défavorables aux nouveaux venus. Ce sont eux qui aident au transport des malles afin d'en connaître le poids. Ne seraient pas fâchés d'assister à leur ouverture et toute valise à laquelle leur est interdit de toucher est pour eux le sujet d'une mortelle inquiétude. Ils la pèsent des yeux. Leur semble-t-elle lourde? La leur dérobe-t-elle avec quelque apparence de mystère? Alors, le champ le plus vaste est ouvert aux conjectures. Les nouveaux venus sont des Crésus. Ils traînent après eux des trésors. Confiance sans bornes, complaisance, petits soins, tout leur est prodigué. Pour eux, on se mettrait en quatre. La cave, la cuisine, l'écurie, la maison entière est en révolution. Les voyageurs dont j'entreprends de décrire les habitudes n'ignoraient pas combien peut valoir de considération une valise montrée et remarquée à propos. Leur domestique, qui était la cheville ouvrière de la mise en scène pratique de leur combinaison, retirait péniblement de la vache ou de l'impériale une espèce de coffret dont l'exiguïté contrastait avec l'énormité de ses efforts pour le soulever. « Moi, ça, contient pas de la plume, » disaient les spectateurs. « Oh, je crois bien, » répondait la cheville ouvrière. Puis, se tournant vers l'hôte, l'hôtesse ou quelqu'un de leur, des leurs, la cheville en allongeant le cou, Ajoutez dans un ton confidentiel, mais toutefois de manière à être entendu de tout le monde, c'est le magot. Oh, donnez, donnez, donnez donc, répétaient cinq ou six officieux. Attendez que l'on vous le dise. Attendez, on vous aide, disait l'hôte, et s'avançant de sa personne pour prendre une idée de leur fardeau. Et quand le coffret était à terre, on procédait à l'examen de la serrure, dont on admirait le travail. Chacun faisait sa réflexion. Mais la plus intéressante à recueillir était celle du patron. Le domestique de ces messieurs avait l'œil et l'oreille à tout. Et si, à cette époque où les assignats constituaient seuls la fortune publique, le patron laissait échapper un geste, un propos, un regard qui trahit son amour pour le numéraire, le regard, le geste ou le propos donnait la mesure de ce qu'on pouvait tenter. Y avait-il apparence de succès? Les voyageurs épiaient l'instant propice pour l'attaque. Un soir, lorsqu'ils étaient certains de n'inspirer que de la bienveillance, ils faisaient prier l'hôte, sinon l'hôtesse ou tous les deux ensemble, de monter dans leur appartement. On s'empressait de se rendre à l'invitation. Alors, un des étrangers disait au domestique, Côtois, ayez la bonté de vous laisser seul. Et dès que Côtois était sorti, l'autre étranger portait la parole. Oh, nous vivons dans un temps où la probité est si rare que l'on doit véritablement s'estimer trop heureux de rencontrer encore des honnêtes gens. En venant chez vous, c'est un bonheur que nous avons eu. La réputation méritée dont vous jouissez nous est le garant que nous ne courons aucun risque en vous confiant un secret qui est pour nous de la plus haute importance. Vous savez avec quel acharnement on proscrit aujourd'hui les nobles. Tout ce qui porte un nom est proscrit. Nous aussi avons été obligés de fuir notre pays pour nous dérober à la rage des révolutionnaires. Ils en voulaient à notre tête et à notre fortune. Eh bien, nous en a pris de déguerpir, car sans doute à l'heure qu'il est, ce serait fait de nous. Enfin, Dieu soit loué, nous voici provisoirement en lieu de société, de sûreté, et avec de braves gens. Ceci était le préambule ou l'exorde. Après avoir débité avec toute la solennité du malheur, le voyageur faisait une pause dans l'expectative de quelques-unes de ces questions qui marquent le degré d'intérêt que l'interrogateur prend à la situation. Et si l'épreuve était satisfaisante, il reprenait. Vous n'ignorez pas que l'or et l'argent monnayés ont disparu de la circulation et que quiconque en a le cache avec le plus grand soin, dans la crainte d'être arrêté et traité comme aristocrate. Nous possédions des espèces d'or pour 50 000 francs. Une pareille somme est embarrassante, et afin de la soustraire plus facilement aux recherches, nous l'avons fondue nous-mêmes et nous avons fait des lingots. À cette époque, nous ne prévoyions pas nous serions incessamment contraints de nous exiler, de telle sorte qu'au moment de départ précipité, nous sommes presque trouvés au dépourvu. Et jusqu'ici, quelques louis d'une petite réserve que nous avions faite nous ont suffi. Mais nous ne sommes pas au terme de notre voyage, tant s'en faut. Et qui sait combien de temps devra durer notre absence? Dans cette position, des fonds nous sont donc indispensables, car on ne peut pas payer les postillons avec des lingots. Oh, nous pourrions nous adresser à un orfèvre, mais qui répondrait que nous ne dénoncera pas. Cette crainte nous a déterminés à recourir à votre obligeance. Vous pouvez nous remettre, nous rendre le service de nous prêter sur un ou deux lingots une somme de 5 à 6 000 francs. La quotité énoncée dans la demande est toujours proportionnée aux moyens pécuniaires de l'aubergiste. Il n'est pas besoin de le dire que nous rembourserons le capital et nous vous tiendrons compte de l'intérêt. Quant à l'époque de ce remboursement, vous la fixerez vous-même à votre convenance et le délai expiré. Si vous avez besoin de faire usage des lingots, vous ne vous gênerez pas. Un écrit de nous vous donnera à cet effet pleine et entière liberté. La botte portée, l'aubergiste était encore dans l'incertitude sur la réponse qu'il ferait. Mais bientôt, les lingots étaient extraits du petit coffre et on les étalait à ses regards. Le plus léger de tous était au moins, avait la valeur de la somme que l'on désirait emprunter. Et au lieu d'un, on en offrait deux. Le du prêt, on ne pouvait placer son argent avec plus de sécurité. Et puis, la chance de s'approprier le gage en cas de non-paiement n'était pas une mince considération. Il n'est donc pas extraordinaire que l'aubergiste consentît à faire une opération qui présentait de si brillants avantages. Cependant, il pouvait se faire qu'il refusât. Alors, comme on ne doutait nullement de sa bonne volonté, on le priait de trouver dans l'endroit quelque richard qui voulût bien délier les cordons de sa bourse, plutôt que de recourir à un orfèvre. On était déterminé à tous les sacrifices. C'était là une tournure délicate pour proposer un intérêt exorbitamment usuraire. L'aubergiste ne tardait pas à déterrer parmi ses connaissances un capitaliste obligeant. Le marché se concluait. Mais avant de recevoir les écus, les voyageurs, fidèles à leur système de délicatesse, demandaient que le titre de l'or fût vérifié. Oh, c'est autant pour vous que pour nous, disait-il au prêteur. Comme nous avons rendu des louis, nous avons fondu des louis, des ducats, des sequins, des quadruples, enfin, toutes sortes de monnaies, nous sommes bien aises, pour votre sûreté comme pour la nôtre, de savoir à quoi nous en tenir. Et souvent le prêteur voulait s'en rapporter à la probité de ces messieurs. Alors ils insistaient. Mais comment arriver à la vérification sans éveiller les soupçons du bijoutier à qui l'on s'adresserait? Et chacun émettait son avis. Cependant, à tout ce qu'on imaginait, il y avait toujours un inconvénient. Ah, décidément, la sagacité de l'assemblée allait se trouver en défaut. Mais tout à coup, un des filous est inspiré. Ah, me barbleu, messieurs, s'écrie-t-il, c'est le pont aux ânes. Il n'y a rien d'aussi aisé que de ne pas mettre le bijoutier dans la confidence. Sillons un des lingots, le premier venu. Nous ferons essayer la limaille. Oh, l'expédient jugé exactement obtenait l'assentiment général. Et aussitôt, le prêteur de scier le lingot, dont les précieuses parcelles étaient recueillies dans un panier laissé à dessein sur la table. L'opération terminée, les emprunteurs enveloppaient la limaille. C'était l'instant décisif. Ils formaient effectivement un paquet. Mais pendant ces mouvements, au papier dans lequel était tombée la limaille de cuivre, ils en substituaient une autre exactement semblable qui contenait de la limaille d'or à 22 carats. Celui-là, le prêteur avait présenté à l'essai. Et aussi revenait-il bientôt avec le visage épanoui et en se frottant les mains comme un homme qui est content de sa journée. « Messieurs, disait-il en entrant, c'est du premier titre. Ainsi, c'est une affaire arrangée. Je vais vous compter les espèces et vous aurez la volonté de déposer les ingots. » Mais rien de plus juste. Mais, comme dans ce monde, on ne sait ni qui meurt, ni qui vit, pour éviter toute contestation, nous pensons qu'il serait convenable de les enfermer dans cette boîte. Une boîte est toujours prête, sur laquelle, de part et d'autre, chacun de nous apposera son cachet. Et puis ce sera plus commode pour nous, dans le cas où nous ne la retirerions pas nous-mêmes. Et en échange d'un prêt petit récépissé que vous allez avoir la bonté de nous faire, vous remettez la boîte, la personne l'emporte et tout est dit. Elle ignore de quoi il s'agit. Le récépissé ainsi conçu, je déclare avoir entre mes mains une boîte que je rendrai sur la présentation de ce billet à la personne qui me paiera la somme de corroborer de sa précaution si essentielle de la position des sceaux, qui devenait la garantie qu'on n'examinerait pas les lingots. De la sorte, ces filous avait le temps de gagner une autre contrée, où, à la faveur de l'incognito, ils recommenceraient leurs manœuvres, qu'ils venaient et qu'ils variaient, suivant les lieux et les circonstances. L'industrie des emprunteurs n'a point péri avec les assignats. Seulement pour atteindre le même but, elle s'est ingérée de nouveaux moyens. On en verra la preuve dans le fait suivant. Des voleurs de cette catégorie, François Motelet, dit le petit soldat, et un Italien, Felice Carolina, dit le fou de Sète, avaient fait fabriquer, pour le prix de 35 000 francs, une parure en brillant et saphir. Moi, ni de l'objet et de la facture, ils se rendent à Bruxelles où ils connaissaient un ancien orfèvre retiré du commerce, le sieur Timmerman, qui avait la réputation de prêter sur gage. Ils vont le trouver à son domicile, place des Sablons, et lui demandent à emprunter 20 000 francs sur la parure. Timmerman en considère attentivement les pierreries, et quand il n'a plus de doute sur leur valeur, il déclare qu'il donnera 18 000 francs et rien de plus. Les emprunteurs acceptent. Et le nantissement est sur le champ placé dans une boîte sur laquelle chacun pose son cachet. Les 18 000 francs comptés, déduction faite de l'intérêt que le prêteur a retenu par anticipation, le petit soldat et l'Italien reprennent la route de Paris. 2 mois après, ils font un second voyage à Bruxelles. L'époque fixée par le remboursement étant venue, ils l'effectuent avec ponctualité. Et Tibermann est enchanté de leur exactitude. Qu'en leur remettant la parure, dont ils se séparent pourtant à regret, ils ne manquent pas de leur faire des offres de service. Ces offres furent bien accueillies et on lui promit qu'au besoin, on lui donnerait toujours la préférence. Or, on va voir qu'en faisant cette promesse, messieurs les emprunteurs étaient bien résolus à ne pas s'adresser à un autre qu'à lui, bien que, suivant son usage, il les eût passablement rançonnés. À Paris, il est un bijoutier qui, depuis 40 ans, a le privilège exclusif de fournir de joyaux les rois, reines, princes, princesses qui ont brillé sur les différents théâtres de l'Europe. De toutes parts, dans ses magasins, resplendissent le diamant, l'émeraude, le saphir, le rubis. Joconde enterre moins de trésors. Mais tout ceci n'est qu'une illusion pure. À la magie de cet éclat, il manque l'idéal de la valeur réelle. Et tous ces feux d'une lumière si riche des enchantements de la couleur ne sont que les produits stérile d'une réflexion trompeuse. N'importe, au premier aspect, rien ne ressemble tant à la vérité que le mensonge. Et le propriétaire de ces merveilles, M. Fromager, est si habile dans ses imitations qu'à moins d'être ce qu'on appelle un fin connaisseur, on n'y voit que du feu. À Paris, il est un bijoutier que depuis 40 ans, le privilège excessif de fournir de joyaux les rois, reines, princes, princesses qui ont brillé sur ces différents théâtres de l'Europe, de toutes parts, dans ces magasins, resplendissent le diamant, l'émeraude, le saphir, le rubis. Joconde en sert moins de trésors, mais tout ceci n'est qu'illusion pure. À la magie de cet éclat, il manque l'idéal de la valeur réelle. Et tous ces feux d'une lumière si riche, des enchantements de la couleur, ne sont que les produits artificiels, stériles d'une réflexion trompeuse. N'importe, au premier aspect, rien ne ressemble à la vérité que le mensonge. Le propriétaire de ces merveilles, M. Fromager, est si habile dans ses mutations qu'à moins d'être ce qu'on appelle un fin connaisseur, on n'y voit que du feu. L'Italien, le petit soldat, n'avait pas été plutôt possesseur de la parure de 35 000 francs. Que, juste appréciateur des talents de M. Fromager, ils étaient allés lui en commander le duplicata. Le modèle sous les yeux, le bijoutier en faux, s'était mis à l'ouvrage et avait exécuté un petit chef-d'œuvre en confrontant les deux parures, impossible de ne pas les prendre pour les deux sœurs. Oh, ce n'était pas simplement un air de famille qu'il avait réussi à leur donner. On aurait dit deux jumelles ravissantes de similitude. Enfin, elles étaient faites pour se servir réciproquement de sosie, voire même en la présence d'un lapidaire qui ne fut pas avisé d'en regarder de trop près. Le petit soldat et son ami l'Italien n'était pas fâché de savoir si M. Timmerman ne s'y tromperait pas. Alors ils partirent de nouveau pour Bruxelles et engagèrent encore une fois la sœur aînée pour la même somme qu'auparavant. 10 jours après, le petit soldat se présente chez l'usurier et lui annonce qu'il vient chercher la parure. Il compte son argent et la boîte où sont enfermés les joyaux lui est remise. Après avoir brisé les cordons et les cachets, il l'ouvre, comme pour s'assurer de l'identité du nantissement. Mais tandis que le juif est occupé de vérifier les espèces à la boîte qui contient la sœur aînée, il en substitue une toute semblable qui contient la sœur cadette et il laisse celle-ci sur le bureau. Tandis que l'autre, par un mouvement subtil de la main, est imperceptiblement glissé au fond d'une poche de côté et pratiqué dans la doublure d'un ample manteau. Le petit soldat va se retirer et déjà il se dispose à prendre le congé de M. Timmerman. Et l'Italien entre, le visage effaré. Oh mon Dieu, dit-il, mon cher ami, en abordant son ami, quelle fâcheuse nouvelle je viens d'apprendre. Les deux traites qu'il faut envoyer à M. Chantou de Corchon n'ont pas été payées. On en exige le remboursement. Oh, tu sais, quel montant, 7 000 francs. Oh, quel malheur. Eh mon Dieu, il n'y a moyen d'y parer. Qu'en laissant la parure entre les mains de monsieur, nous viendrons la prendre une autre fois. À votre aise, mes enfants, dit Timmerman, parlez avant que j'aie ouvert ma caisse. Que garderai-je, les écus ou les bijoux? Oh, les bijoux, répond le petit soldat, ils contiennent. Incontinent, la boîte est ficelée et cachetée, et les deux escrocs se retirent en portant les 18 000 francs. À quelques mois de là, M. Timmerman, las d'attendre les emprunteurs qui ne revenaient pas, eut l'idée de briser les scellés. Hélas, les brillants et les saphirs s'étaient évanouis. Ce n'était plus que du strass. L'or avait été remplacé par du cuivre. Mais le travail en était admirable. En général, les joailliers, bijoutiers, marchands de diamants, etc., ne sauraient trop se mettre en garde contre la sœur cadette. Oh, j'en connais plus de 4 qui ont été volés, à peu de choses près. De la même manière que l'usurier Brabançon. Les filous, dont l'imagination est féconde, inventent aujourd'hui une ruse et demain une autre. Un tour qui leur réussit presque toujours est celui-ci. Ils entrent dans une boutique pour acheter des objets de prix. Leur choix est bientôt fait, ils s'arrêtent à ce qui est de sur défaite, et en 4 paroles, le marché est conclu. Malheureusement, ils n'ont sur eux qu'une paire partie de la somme nécessaire. Ils reviendront. Mais comme ils tiennent à leur emplette, pour être certains qu'on ne la leur chargera pas, ils demandent qu'on la mette dans une boîte qui sera ficelée et revêtue de leur cachet. Le marchand, ébloui par des arts considérables, adhère à de la proposition et oublie de surveiller les doigts. Et qu'en résulte-t-il? Que l'on ficelle et cachette une substitution, tandis que la boîte où est la vraie parure descend dans la poche d'un amateur qui reviendra à Pâques ou à la Trinité. La Trinité se passe, le marchand garde les arts et perd 90%. Alors il se souvient que le jour où il avait fait cette superbe affaire était un samedi et qu'il n'avait pas traîné de la semaine.